Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Quand Mathis, 15 ans, est tué de plusieurs coups de couteau en pleine rue à Châteauroux par un jeune homme de nationalité afghane, le maire de la ville, Gilles Avrous, ex-UMP, aujourd'hui divers droite, explique que l'ensauvagement des mineurs est un problème central de notre société. Il a raison sans doute. Mais tous les jeunes de 15 ans n'ont pas sur eux un couteau ou une arme blanche. À aucun moment, Gilles Avrous n'a pointé la responsabilité de l'immigration massive et de l'arrivée sur le sol de France d'individus qui ont grandi dans d'autres pays, avec d'autres codes, sous l'influence d'une autre culture et qui transfèrent ici des habitudes, des comportements qu'ils avaient ailleurs. Manuel Valls disait hier que le drame de Châteauroux interroge sur la politique migratoire. Il me semble que c'est une évidence. Monsieur Avrous a aussi demandé qu'aucune instrumentalisation existe, qu'aucune récupération suive. Le père de Mathis a exprimé également le même souhait. Je rapporte ce matin ces faits et je m'abstiendrai donc de commentaires. À Châteauroux, chacun s'accorde à dire que Gilles Avrous est un bon maire, réélu à 70% au premier tour en 2020. Il tient cette ligne qu'il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Elle est contraire au travail du journaliste. Ne pas mettre d'huile sur le feu, c'est reconnaître qu'il y a le feu, mais qu'il faudrait le taire. Il est 9h. Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le jeune Afghan de 15 ans suspecté d'avoir tué Mathis a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire dans la foulée. Quant à sa mère, elle a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Elle est suspectée d'avoir asséné plusieurs gifles à la victime alors qu'il venait d'être poignardé. Mathilde Panot et Rima Hassan seront entendues par la police à partir d'aujourd'hui. Ces auditions ont lieu dans le cadre de plusieurs enquêtes pour apologie du terrorisme après leur prise de position sur l'attaque du 7 octobre en Israël. Mathilde Panot a appelé à un rassemblement à Paris pour dénoncer une tentative de censure, dit-elle. Et puis Emmanuel Macron devrait bientôt s'exprimer sur la situation à Sciences Po, une information du service politique de CNews. En attendant, la région Île-de-France a suspendu ses financements à l'établissement et ce jusqu'à nouvel ordre. Ça fait suite évidemment aux nombreux débordements causés par des militants pro-palestiniens ces derniers jours. Selon la députée Renaissance Caroline Yadan, il faut des sanctions systématiques pour ces étudiants.
Aucune sanction disciplinaire ne sera abandonnée et il est parfaitement possible de prendre des sanctions disciplinaires contre eux. Moi, je suis partisan de sanctions exemplaires, d'une fermeté exemplaire, parce que ce qui est en train de se passer est parfaitement intolérable.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci, Chana. Sarah Salman est avec nous. Vous êtes avocate. Joseph Massescaron, Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, Gauthier Lebret sont avec nous. Et Pierre-Alexandre Zal, vous êtes étudiant à Sciences Po Paris. Ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous. Hier, je vous ai eu sur Europe 1. Vous nous avez appelé au standard d'Europe 1, d'ailleurs. Je ne vous connaissais pas. J'ai trouvé votre témoignage tellement formidable que je vous ai dit, venez nous en parler en plateau. Pourquoi ? Parce qu'on entend que les minorités actives, agissantes, et votre témoignage, vous avez envie de bosser, vous êtes à Sciences Po depuis 5 ans, on ne parle que des 100 ou 150 qui bordélisent, pardonnez-moi l'expression, Sciences Po, mais la majorité, elle est plutôt comme vous.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, et aujourd'hui, Sciences Po est dans une situation d'une extraordinaire gravité à cause justement de cette minorité étudiante qui parle beaucoup, qui est très bruyante, et qui est en train en fait de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Donc en fait, on est menacé aujourd'hui par cette minorité. Et puis vous avez en face une direction qui ne dit rien, qui cède tout. On pourrait même se demander si on a encore une direction, parce que voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à Sciences Po. Et en réalité, j'ai connu deux directions, deux administrations provisoires. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité. Et donc en fait, tout est permis. Et aujourd'hui, des étudiants comme moi qui veulent simplement travailler, on est livrés à nous-mêmes.
Vous avez 23 ans, Exactement. Vous êtes entré à Sciences Po après le bac.
Exactement.
Vous préparez le barreau.
C'est ça.
Vous allez partir aux États-Unis.
Tout à fait.
J'imagine que vos parents doivent être assez fiers de vous et de votre parcours, parce qu'à 23 ans, c'est pas si fréquent de tout réussir aussi vite et aussi bien. Et vraiment, cette majorité silencieuse. Alors, vous n'imaginez pas parfois, entre vous, prendre la parole tous ensemble pour dire... Parce que ceux qui, effectivement, manifestent, c'est souvent pas les étudiants les plus brillants. C'est ceux qui ont bien compris dans la vie qu'ils ne pourront réussir qu'à travers le militantisme. C'est beaucoup plus difficile parfois de réussir dans d'autres domaines. Et vous n'avez pas tenté de prendre la parole ensemble ?
Mais vous savez, moi je suis affilié à aucun syndicat, aucun parti politique, mais en fait on a été tellement indignés avec certains camarades de l'école de droit du communiqué qu'on a vu tomber vendredi soir après ce qui s'est passé toute la journée de vendredi, qu'on s'est dit qu'on devait réagir spontanément. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole. Honnêtement, je sais le risque que je prends, parce qu'après je sais le harcèlement qui va en découler, etc. Mais ça me semble important, parce que sinon après la réputation de cette école, elle va être salie par ces minorités qui ne travaillent pas, par ces minorités qui vont salir tout le monde et qui vont nous empêcher, nous, de pouvoir aspirer aux carrières qu'on envisage.
Alors, on parlera évidemment tout à l'heure de Sciences Po, mais je trouve que vous avez beaucoup de courage. Avant de venir, je vous dis, faites attention à vous. On a eu cet échange parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté, parce que le fait que vous interveniez à la télévision fait qu'aujourd'hui, vous allez être un visage connu. Comme vous dites, vous pouvez être... J'ai pensé à vous, hein, ce qui est bien normal, c'est la moindre des choses d'ailleurs. Et vous êtes venu quand même avec beaucoup de courage et je trouve que vous donnez une leçon de courage. Vous avez 23 ans, à tout ce personnel politique, quand j'entends Mme Retailleau s'exprimer, je vous assure, aux âmes bien nées, comme dit l'autre, la valeur n'attend pas. Ça serait intéressant de temps en temps que ce personnel politique vous écoute. On en reparlera évidemment tout à l'heure de Sciences Po, mais Matisse, le drame de Matisse, on va voir le sujet de Chloé Tarka qui nous rappelle les faits.
Plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, auront été fatals au jeune Matisse. L'agresseur aurait reçu le même jour un coup de poing de la part de la victime. Pris par la colère, il se serait vengé en lui assénant plusieurs coups de couteau avant de s'enfuir.
Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit.
Alors qu'il agonisait, la mère de l'agresseur de 15 ans a ensuite asséné plusieurs gifles à la victime. Dans le quartier, la femme est connue pour son agressivité.
Il y avait déjà eu une altercation avant, j'étais au jeu là-bas. Matisse était... je peux discuter avec Matisse. La maman du petit jeune qui est passé à l'acte, elle l'avait insulté parce qu'elle avait fait un petit bruit à la fenêtre, il s'était retourné, il l'avait regardé, puis elle lui avait dit « toi, tourne ta tronche, arrête de nous regarder », puis elle m'avait dit « ouais, toi, sale p***e ». Enfin voilà, il y avait vraiment une tension.
Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre à l'encontre du mineur et pour violence volontaire à l'encontre de la mère.
Je voudrais qu'on écoute le père de Matisse qui a témoigné au micro de Radio Luxembourg.
Ça fait plaisir parce que ça nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent. Et aimer Matou, quoi. Aimer Matisse. Personne ne sait ce qui s'est passé. J'entends de tout et de rien. Donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête. Ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. Mais mélangeons pas tout. Et faites attention à tous les bords de droit, tout d'ailleurs, qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse. Et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou, qui était un vrai gentil, soyez pareil.
Alors avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Gilles Averrousse. Et je disais tout à l'heure qu'il a souligné l'ensauvagement sans jamais pointer la responsabilité de l'immigration. Écoutons-le.
Les deux protagonistes, l'auteur comme la victime, ont 15 ans. Ça c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. Il y a besoin aujourd'hui... de prendre des mesures rapides. Je sais que le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours et a donné, je crois, un délai de 8 semaines pour pouvoir faire des préconisations. Mais il est vraiment très, très urgent de redéfinir une politique en la matière qui soit à la fois sur le plan judiciaire, avec des moyens pour la justice de pouvoir peut-être plus facilement priver de liberté des jeunes de moins de 16 ans qui seraient mis en cause, puisque là, en l'occurrence, le meurtrier, à deux reprises, il a été interpellé ces dernières semaines. Moi, j'avais connaissance que d'un fait qui a eu lieu il y a 8 jours pour un vol avec violence, vol aggravé, hein, et donc qui n'avait pas permis à la justice une incarcération.
Bon, c'est un sujet très délicat parce que vous avez un drame important et que la famille souhaite qu'il n'y ait pas de récupération ou d'instrumentalisation. En même temps, M. Avrous ne parle pas d'immigration. Il cible en disant que c'est un problème de mineurs et d'ensauvagement.
Il n'y aura pas de récupération, mais c'est notre devoir quand même d'avoir un regard sur ce qui est devenu, et on le dit assez souvent, un fait de société. Faut-il rappeler le meurtre de la petite Lola ? Faut-il rappeler
Georges Fenech.
Tout ce qui a endeuillé notre pays et qui est directement lié à l'immigration. On ne peut pas continuer à nier cette réalité. Et ça n'est pas faire injure ou peine à son père qui est admirable et qu'on respecte et dont on partage la douleur, si tant est que ce soit possible, que de faire cette analyse, parce que c'est notre devoir de le faire. De même que les politiques doivent en tirer des conséquences et revoir cette ordonnance de 2021, non, réformée en 2021, qui a, je vous l'ai dit hier, Pascal, désarmé la lutte contre la délinquance des mineurs. Donc ça, c'est notre rôle que d'avoir ce regard.
Voilà. Comme c'est notre rôle aussi de souligner qu'il y a un vocabulaire qui est employé à chaque fois, il n'y a rien à faire, et qui est un vocabulaire, à mon sens, inapproprié. C'est-à-dire le mot « rixe », pour moi, est inapproprié. Et il tourne en rond et en permanence. Il a été repris. Et ça, c'est juste pas possible.
C'est la même chose sur Crépol.
C'est la même chose sur Crépol. Gauthier a raison.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur le droit d'asile tel qu'il est fait en France, voir comment ça se passe à l'OFPRA, voir qui sont ces Afghans qui viennent sur le territoire de France?
C'est la première nationalité pour les demandes d'asile, les Afghans. Et après, c'est impossible de les expulser parce que vous n'avez pas expulsé vers l'Afghanistan. Les talibans ne vont pas vous donner des laissez-passer consulaires. Donc en fait, ça pose une seule question. Comment expulser des Afghans, si tant est que ça soit possible? C'est le pays tiers. On a eu ce débat la semaine dernière avec le Royaume-Uni, Rishi Sunak, qui vient d'avoir au forceps le vote de la Chambre des Lords pour pouvoir expulser vers le Rwanda avec un accord à plusieurs centaines de millions d'euros.
Comme l'Italie avec l'Albanie.
Voilà, donc la seule manière en fait d'expulser des Afghans, ça serait d'avoir un pays tiers.
En même temps, on peut comprendre quand même...
Jean-Claude Dacier.
La situation est impossible, notamment pour les femmes en Afghanistan. On peut comprendre qu'il y ait des demandes d'asile qui, pas seulement à mon avis, arrivent en France. Néanmoins, quand il s'est passé ce qui vient de se passer, je pense que le père, moi je partage tous ici sa tristesse et son appel au calme, je pense qu'il vise Ebardella et Marion Maréchal qui se sont peut-être, chacun jugera, un peu précipités pour faire une vidéo, pour dénoncer ce qui s'est passé. En même temps,
c'est leur rôle.
Je pense que, oui, absolument, c'est leur rôle.
C'est le rôle du
et en même temps, je ne pense pas qu'on puisse faire le moindre reproche aux journalistes ou au journalisme. Parce que si véritablement on ne parle pas d'un événement tragique comme celui-là, on sert à quoi ? Donc il faut relativiser. Moi je comprends parfaitement les paroles et l'appel au calme du père qui mérite vraiment notre solidarité et notre sympathie. En même temps, ça témoigne tout de même d'une politique de l'immigration qui est totalement hors de contrôle et on n'a pas fini de payer la facture.
Alors, Gilles Avrous nous regarde manifestement et il vient de m'envoyer un texto et il m'a donné l'autorisation de le citer. Je lui ai proposé d'ailleurs de réagir et il n'a pas souhaité. Il m'a dit « je ne réagirai pas avant les obsèques », ce qu'on peut comprendre. Il dit « pour être clair sur le sujet de l'immigration, ce n'est pas du tout un tabou pour moi. Je le dis, on a un problème avec l'immigration en France. Je l'ai publiquement et nationalement dénoncé fin 2021 quand un vendredi soir, l'État m'a annoncé m'adresser un quart de migrants le lendemain, samedi matin, dont des Afghans qui finalement ne sont pas restés et sont repartis pour, par eux-mêmes à Paris dans les 48 heures. Les maires ne sont jamais associés et très rarement informés. Et pourtant, ce sont sur eux que tout le monde tape du matin au soir. Hier matin, la maire me demande par SMS 5 minutes avant le début de la conférence de presse de ne pas aborder ce sujet. La maire de Matisse. Donc effectivement... Je comprends, monsieur Avrous. Par respect pour les parents qui ont perdu un fils 36 heures plus tôt, alors même que l'enquête n'était pas terminée, que les obsèques n'ont pas eu lieu, je ne pouvais pas ne pas respecter leur volonté. C'est la mort de leur fils. Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde a intérêt à communiquer, à parler dans ces cas-là. Donc, je cite intégralement le texto de monsieur Avrous qu'il vient de m'envoyer à l'instant.
Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, même sur notre antenne, c'était le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui disait « J'ai vu arriver des Afghans, personne ne m'a prévenu. Les hôtels sont pleins, je ne sais pas comment faire. » Donc, si vous voulez, les maires sont devant une situation, devant un fait accompli qui leur est imposé par l'État.
Sarah Salman.
Il y a un problème migratoire, et ça c'est incontesté et incontestable, mais il y a aussi la justice pénale des mineurs. La personne était déjà connue des services de police, et il n'a pas été, en tout cas, il était en liberté sous contrôle judiciaire. Je le rappelle, la détention provisoire, c'est l'exception. Et la détention provisoire pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans n'est possible que dans deux cas, en matière criminelle et en cas d'irrespect du contrôle judiciaire. On pourrait éventuellement s'interroger, est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être, c'est une question, réformer cela. Parce qu'au-dessus de 16 ans, il y a plus de choses. On peut lever l'excuse de minorité, même si en pratique, ça ne se fait quasiment jamais. Et les conditions de détention provisoire sont un petit peu plus larges. Donc pourquoi cette personne n'a pas été mieux suivie? Et je crois qu'il y a une frilosité à la sanction, que ce soit d'ailleurs à Sciences Po, pour les mineurs et pour les majeurs.
Mais ce que vous dites, Sarah, c'est avant 2021.
Oui, bien sûr.
C'est cette majorité qui a empêché un juge de pouvoir placer en détention provisoire ce jeune. Non, la procureure l'a dit dans son communiqué. Bah oui. On ne pouvait pas.
Et je rappelle évidemment.
Donc, la question, c'est est-ce qu'il faudrait éventuellement réformer cela?
Mais ça existait avant. Vous ne les avez pas demandé à ceux qui ont réformé de re-réformer ce qu'ils ont fait.
Et je rappelle évidemment, puisque je l'ai cité, que Gilles Avrous est le maire de Châteauroux.
Oui. Et un bon maire.
Oui, mais je l'ai dit, il a été réélu avec 70%, ex-UMP aujourd'hui d'hiver droit.
Il a fait un travail considérable.
Écoutons Manuel Valls qui, lui. Hier, était chez Sonia Mabrouk sur une position très ferme sur ce sujet.
La direction s'est engagée à un débat qui porte sur les revendications de ces étudiants qui ont bloqué l'Institut, et notamment sur la suspension du partenariat de l'école, j'ouvre les guillemets, avec les universités et les...
Vous avez compris effectivement que Manuel Valls s'exprimait sur Sciences Po, dont on va parler d'ailleurs dans une seconde, et non pas sur Châteauroux. Et je le dis pour Marine Lançon, c'est un passage que nous avons écouté hier soir dans l'émission L'heure des pros. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, puisque...
Est-ce qu'il est vrai que le garde des Sceaux est opposé, assez fermement opposé, à ce que l'on touche à l'ordonnance des mineurs?
L'ordonnance des mineurs, elle fait partie du code de la justice pénale des mineurs de 2020.
Non, mais il vient de la réformer.
En substance.
Il
vient de le réformer.
Il a réformé il y a quelques mois. Mais est-ce qu'on change d'avis qu'on ne change pas d'avis vu l'amoncellement?
Le changement de logiciel, ce sont des gens
qui... pas leur demander de changer de logiciel.
Ah ben non.
Alors, il faut changer de personne.
Voilà. Eh ben oui, peut-être. Oui,
je suis désolé de vous dire.
Sur l'excuse de minorité, je pense que ça remonte à Ploude qu'Éric Dupond-Moretti. Je ne suis pas sûr que Gabriel Attal et Emmanuel Macron soient pour la lever.
C'est bien possible.
Mais vous arrivez aujourd'hui, quand on dit qu'il faut changer de logiciel, c'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en un an, le nombre, combien on a changé d'une certaine manière de paradigme sur ces sujets-là. On entend des choses qu'on n'entendait pas il y a un an. C'est-à-dire que ça ne peut pas continuer, en fait. Ça ne peut pas continuer.
Vous ne pouvez pas demander à un homme politique
de
changer de conviction comme on change de logiciel. Ce n'est pas possible.
Oh, ça ne serait pas le premier, Jean Chenec, excusez-moi. Je veux dire, des gens qui changent de conviction et qui retournent leur veste, c'est même
juste un mot sur la répartition. Bon. Parce que ça a été théorisé par Emmanuel Macron lors d'un discours devant les préfets, la répartition des migrants. Évidemment, ça s'est accéléré avec les JO. Et puis au moment des émeutes, il nous avait fait la répartition des difficultés aussi sur l'ensemble du territoire.
Je vous dis sans arrêt que c'est les villes moyennes qui sont le plus touchées. Curieusement et paradoxalement, Paris est protégé. Il y a des quartiers à Paris qui sont incroyablement sécures. Mais dans les villes de province où, par définition, c'est plus petit, il y a regroupement parfois dans certains, comme dans des gares, comme dans des endroits, ce qui fait que à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, les gens n'osent même plus sortir le soir.
Allez à la gare du Nord, vous allez voir comme Paris est touché. Hein. Vous avez tout.
Mais
le crack, la délinquance...
J'entends bien, mais
il y a certains arrondissements qui sont à l'abri.
C'est ça que je veux dire.
Oui.
Alors qu'en province... Aucun quartier n'est à l'abri. Alors qu'à Paris, certains quartiers le sont.
La preuve, Saint-Denis, à Châteauroux, c'est un quartier qui est un quartier qui était calme. Hein, tout le monde le dit.
Manuel Valls, que je vous annonçais, écoutons-le. Et après, nous parlerons de Sciences Po.
les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés. C'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite.
C'est formidable ce que dit Emmanuel Valls. Le problème, c'est qu'il a été Premier ministre.
Ouais, j'ai écouté,
que, j'aurais envie que lorsqu'il était Premier ministre, il mette en place ce qu'il dit aujourd'hui. Alors on lui dira que ce n'est pas la même solution.
Il est d'abord connu comme ministre de l'Intérieur, excellent ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Et il est rentré en confrontation vraiment directe, frontale, avec Christiane Taubira, qui était elle garde des Sceaux. Il s'en était plaint, j'ai la lettre, il s'en était plaint au président de la République. Il dit, c'est pas possible. On peut pas cautionner cette politique judiciaire qui va à l'encontre, finalement, de ce que fait la police sur le terrain. C'était quoi? Madame Taubira avait supprimé les peines planchers. Elle avait supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Elle avait arrêté la construction de places de prison. Ce qui fait que, aujourd'hui, Manuel Valls vient nous dire tout cela. Mais à l'époque où il était au pouvoir, il en a été empêché, en réalité.
Ah, attendez. Il y a juste une circulaire qui prend, qui empêche l'expulsion de la famille de celui qui tuera Dominique Bernard à Arras. Hein. C'était une circulaire de Manuel Valls. Hein.
Il y a deux ou trois mesures d'urgence à prendre. La première, c'est peut-être aucune régularisation sur le sol de France. Deuxièmement, le regroupement familial, c'est fini.
On régularise à tour de bras.
Oui, mais le regroupement familial... Je crains que tu ne sois pas écouté.
Mais le regroupement familial, c'est terminé.
Élargi par le président de la République, si j'ai bonne mémoire.
Eh bien ça, c'est une mesure...
Alors
ça,
au début.
Vraiment, il faut le faire immédiatement.
Qui avait institué le regroupement familial?
Immigration.
Non, mais... Oui. Qui avait institué?
Mais c'est le conseiller d'État, oui, c'est même pas Giscard.
Si, c'est lui.
Mais non.
Oui, je connais les éléments de langage.
Parce qu'au moins, la suspension de l'immigration,
mais je vais vous dire, déjà une bonne nouvelle. À la limite, qu'en 76 ou 77, Giscard n'est pas vu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais arrêtez de faire le procès à Giscard. On est en 77. La situation n'a rien à voir. C'était il y a 50 ans. Oui, mais enfin, Joseph.
Il y a l'Europe.
C'est tellement plus facile.
Bon,
ensuite.
Je vous dis aujourd'hui, il faut l'arrêter. Immigration.
Au moins la suspension.
Pourquoi pas?
Au moins la suspension.
Ça représente 10 ou 15% de l'immigration, l'immigration au travail. Et c'est pas celle qui pose du problème parce que les gens bossent.
Alors il faut quitter la Convention européenne.
Bon. Allez. Sciences Po.
Il faut arrêter avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Mais
on ne peut pas le faire, ça.
Eh bien, alors continuons, faisons rien. Et puis voilà,
vous dites,
mais vous m'expliquez toujours,
il
faut rien faire.
Il y a un préalable, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le regroupement familial.
Écoutez, on va parler de Sciences Po. Quand tu discutes. Quand tu discutes avec Matignon, ce qui nous arrive, les gens te disent, bah oui, vous avez complètement raison, mais on peut rien faire. Donc on peut rien faire en rien.
On dit qu'on
en fait.
Peut rien faire. Il faut renégocier.
On peut rien faire en rien dans aucun domaine. On parle de Sciences Po. Madame Retailleau. On va écouter Madame Retailleau.
Sur le regroupement familial.
Sciences Po.
Les pays européens ont une politique différente.
Oui. Madame Retailleau.
Très différente.
Madame Retailleau. On va écouter Madame Retailleau. Je vous assure, je m'interroge quand même sur. Il n'y a personne d'autre que Madame Retailleau pour représenter l'université en France. Sérieusement. Et l'enseignement supérieur. Je vous assure, je ne veux pas être désagréable avec cette dame, mais il n'y a personne d'autre en France qu'elle. Parce que, d'abord, je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Elle s'exprime, c'est pour le moins confus, et elle change d'une ligne d'un jour à l'autre. Donc l'université française, c'est elle qui la représente.
Et elle n'est pas très soutenue, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon.
Elle est un peu scolaire dans son expression.
Mais tu te dis, pardonnez-moi cette expression triviale, mais ils vont les chercher où? Je vous assure, l'université française, c'est Madame Retailleau. Alors, elle était ce matin aux Quatre Vérités. Écoutons-la, puisque maintenant, elle fait marche arrière.
La communication interne qu'il y a eu n'est pas une bonne communication interne. Et c'est ça qui a posé la polémique. Et c'est normal, puisque cette communication interne a laissé croire qu'il y avait, vous l'avez dit, abandon de sanctions. Et je voudrais dire que c'est faux et que ça, je ne l'accepterai jamais. Et d'autre part, qu'il y avait une discussion où l'institution pourrait se positionner vis-à-vis du conflit et pourrait se positionner en particulier sur les partenariats. Là aussi, c'est faux. Il n'y aura aucun positionnement de l'institution comme d'aucune institution publique et il n'y aura aucun abandon ou boycott des relations avec les académiques d'Israël. Ça, je voudrais le dire.
Donc ça, c'est clair et net.
Et la direction de Sciences Po est alignée sur cette position.
Et c'est un...
Donc il y a sanction ou il n'y a pas de sanction ?
Je ne comprends pas rien. Mais c'est un...
Elle dit exactement l'inverse. Enfin, le rétropédale, grandeur nature, c'est presque lunaire là.
Bon, enfin. Elle se félicitait du communiqué de Sciences Po qui disait bien que les sanctions étaient levées pour...
C'est insensé qu'elle soit encore en place. En fait, c'est insensé. Je ne peux pas vous dire autre chose. Voyez le tweet qu'elle avait fait, qui illustre d'ailleurs le pas de vague, comme toujours. De Sciences Po. Vous l'avez évidemment. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent à l'instant que Pierre-Alexandre est étudiant à Sciences Po, que c'est intéressant d'entendre un élève qui n'est pas dans la minorité active et qui a simplement envie de bosser.
C'est ça, c'est exactement ça. Et là, on parlait de ce communiqué. Ce communiqué, en fait, on l'a pris avec sidération. On avait honte de ce communiqué. En fait, le deal qui a été passé avec cette minorité, c'est un peu comme si vous aviez un magistrat du parquet qui abandonnait toutes les poursuites avec un individu, avec un criminel, parce que celui-ci promettrait de ne pas recommencer sous les deux semaines. C'est exactement ça, en fait. Et du coup, c'est l'impunité totale. Mais ça fait partie de la culture du pas de vague qui s'installe à Sciences Po déjà depuis des années. Et en fait, on est complètement abandonné par les pouvoirs publics. Et le message que je veux passer aujourd'hui, c'est que Sciences Po, c'est pas ça. Sciences Po, c'est des étudiants qui veulent travailler. Sciences Po, c'est des professeurs formidables. Sciences Po, c'est un horizon pour plein d'étudiants qui rêvent d'accéder à cette école pour une émancipation intellectuelle. Et aujourd'hui, l'image qui est renvoyée par ce genre de communiqué ou par l'abandon des pouvoirs publics est une honte.
On va voir le tweet de Mme Retailleau. Est-ce qu'elle avait écrit « Je remercie M. Jean Basser pour son action à Sciences Po qui doit rester un lieu d'études, de respect et de demain. Honte à ceux qui instrumentalisent les passions, les signes. »
C'était pour la France Insoumise.
Voilà, cynisme les avait. Alors, comme elle remerciait M. Basser, dans son communiqué, avait dit qu'il n'y aurait pas de sanctions. Donc, on le revoit, on peut le revoir, je ne l'invente pas. Ouais. Je le remercie pour son action, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Elle faut remercie pas... le fait qu'il n'y ait pas de sanctions.
Voilà. Manifestement, M. Basser a rétropédalé aussi.
Oui, mais en fait, ces gens.
Ils se sont couchés, tout le monde les a quittés, maintenant ils rétropédalent.
Si Gabriel Attal, qui était allé à Sciences Po pour bander les muscles, si Gabriel Attal est sérieux, il vire l'administrateur provisoire, il met un préfet, préfet l'allemand, pourquoi pas. Ça serait un homme de poigne, et il vire la ministre de l'enseignement supérieur. Voilà.
Alors là, je crois que c'est plus au niveau de Gabriel Attal. Hein. C'est à l'Élysée, et à l'Élysée, on réfléchit comment répondre, et on dit qu'Emmanuel Macron va prendre la parole bientôt.
Emmanuel Macron va prendre la parole pour parler de Sciences
Po. Il serait peut-être temps, oui.
Non, mais sérieusement, c'est Emmanuel Macron qui va prendre la parole.
Ah, le dossier est remonté jusqu'à l'Élysée, oui, bien sûr.
Sur Sciences Po, bien sûr. Emmanuel Macron,
sur Sciences Po, le dossier est sur le bureau du président de la République, et il trouve ça catastrophique.
Il n'y a plus de ministre de
l'Élysée. Si Attal a un problème, c'est justement d'essayer de ne pas être le décalé du président de la République. C'est mal parti. Il faut qu'il prenne son indépendance et annonce un certain nombre de décisions qui apparaissent comme étant les siennes.
Thomas Hill. Disons bonjour, si j'ose dire.
Bonjour Pascal.
Vous allez bien, Thomas Hill?
Toujours un plaisir de vous
voir. Des grandes maisons d'Europe 1. Vous savez que c'est une filiation qu'il y a un peu avec Monsieur Dacier, qui était dans les années 70 à Europe 1.
C'est vrai. Salut.
Quelle date vous parlez là?
Dans les années 70. On a parlé des capitaines portugais hier. Vous aviez été surnommés les capitaines portugais. Sacco Mano qui vous avait surnommé comme ça, avec Étienne Moujotte et quelques-uns. Merci, je ne vous demande pas le programme.
Ah non, on n'a pas le droit, vous le savez.
Ah oui, on n'a pas le droit. Bon, alors si on n'a pas le droit,
après
on
le
vous
écoute
le pas, on a pas le droit, d'ailleurs, mais on vous souhaite quand même bonne émission. Il est 9h26, la pause, on est vraiment avec Pierre-Alexandre. C'est formidable que vous soyez sur ce plateau, parce que c'est une voix qu'on n'entend jamais. On entend effectivement que les minorités actives... Et effectivement, on n'entend pas simplement les gens qui veulent.
Je peux poser une question courte?
Oui, mais après la pause.
Ah, non, bah c'était juste 15 secondes.
Oui, mais la réponse pouvait être longue. Et il est 9h26. Mais je vous redonne la parole, je vous promets, à 9h30. À tout de suite. Il est 9h32. Nous sommes ce matin. Et c'est très intéressant d'écouter Pierre-Alexandre, qui est étudiant à Sciences Po. Et Jean-Claude Dacier va lui poser une question dans 2 secondes. Mickaël Dorian.
Un rassemblement de soutien à Mathilde Panot et à Rima Hassan a lieu en ce moment même devant les locaux de la police judiciaire à Paris. La chef des députés de la France Insoumise et la militante franco-palestinienne doivent y être entendues dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme. Mathilde Panot dénonce une fuite en avant sans précédent. Contrairement à la région Île-de-France, l'État ne supprimera pas les subventions à Sciences Po. La ministre de l'Enseignement supérieur l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France 2. Sylvie Retailleau assure cependant qu'il n'y aura pas de boycott des partenariats entre l'école parisienne et les universités israéliennes. Et puis le PIB a progressé de 0,2% au premier trimestre de l'année. Bruno Le Maire s'en félicite. La croissance progresse, signe de la solidité de notre économie, dit-il. La stratégie du gouvernement est payante, a-t-il même ajouté.
La ministre de l'Enseignement supérieur a donc pris la parole. Mais Jean-Claude Dacier, d'abord, vous voulez...
Non, mais juste une petite seconde sur une question qui me préoccupe beaucoup vis-à-vis de la jeunesse et de leurs études. Vous allez partir, nous avez-vous dit, aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'intention de rentrer en France ou dans votre tête, vous êtes déjà américain ?
Non, mais je souhaiterais commencer une carrière là-bas et puis bien sûr revenir à un moment donné.
Vous êtes sûr ?
Mon grand-père était très attaché justement à la fuite des cerveaux, etc. Il en avait très peur. Donc...
On me dit que 200 000 jeunes partent tous les ans. J'espère que sur ce chiffre que je n'ai pas, beaucoup reviennent. J'espère ne pas me tromper. Mais si peu reviennent, moi j'ai un petit-fils qui est à Dallas, Texas. Il n'a pas du tout envie de revenir et ça me rend malade. Non, mais je referme la parenthèse.
Mais pas du tout.
Mais les conditions d'exercice de la profession d'avocat ne sont pas du tout les mêmes pour Atlantique.
Ben oui, mais
vous avez raison, ça s'appelle le raisonnement par l'exemple. Bon, on salue Morlaix à travers vous.
Oui, absolument. Parce que
vous êtes né à Morlaix.
C'est ça. Donc
je me disais, mais c'est parce que vous venez de Bretagne, c'est pour cela, la Bretagne, ça vous gagne. Madame Retailleau, sur les débats, écoutons-la, c'était ce matin aux Quatre Vérités.
Ce mouvement de, en tout cas, l'expression et l'expression de nos jeunes, quel que soit sur le sujet, ça fait partie des débats et ils doivent être dans les universités, mais de façon respectueuse, de façon cadrée, en acceptant la controverse et avec un cadre serein. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et donc, quelque part, le débat, c'est un signe de bonne démocratie et les universités doivent être aussi un entre-deux débats. Mais quand c'est un blocage, c'est non.
Et
je dirais
pire
quand c'est une escalade.
Gauthier Lebret.
La vérité, c'est que Sylvie Retailleau avait proposé en marge d'un conseil des ministres, après l'adoption de la loi immigration, le pacte avec LR qui a été complètement détricoté ensuite par le conseil constitutionnel. Elle avait proposé au président de la République sa démission. Il aurait plutôt dû l'accepter. Elle était contre la caution que les étudiants étrangers auraient dû verser. Ça a tout de suite été cassé dans l'œuf par Elisabeth Borne qui avait dit que ça sera une cinquantaine d'euros. Et puis ça a été jugé inconstitutionnel par Laurent Fabius et les sages. Donc il avait l'occasion de l'exfiltrer. Elle était contre la loi immigration. Bah, il aurait dû accepter la démission,
et à votre
président.
Avis, il l'a gardée pourquoi ?
Parce qu'il n'a peut-être personne d'autre à mettre.
La parité. Ou...
Et la parité, vous le savez comme moi. Parce que ça, c'est une chose que personne ne dira comme ça. Mais bien sûr, c'est difficile à dire.
Il y a d'autres femmes de qualité pour le poste de l'enseignement supérieur.
Oui, mais bien sûr.
Dans le personnel politique. Quelle catastrophe. Mon Dieu.
Difficilement être pire, quand même.
Sur la communication, oui. C'est aussi à revoir, parce que là, d'un point de vue pédagogique, on ne comprend pas grand-chose hein, quand elle s'exprime.
Joseph Massescaro.
Je vais juste dire un point qui est passé un peu inaperçu, c'est qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de Valérie Pécresse et de sa décision
d'arrêter ses pensions. Mais on va en parler tout de suite, on n'en a pas parlé.
Alors, juste avant, en introduction, on n'a pas parlé d'une fondation qui a arrêté sa bourse, très importante, qui est la fondation de Jean-Paul Fitoussi. Une seconde. L'ancien Sciences Po que je suis, ancien élève, peut en parler. Jean-Paul Fitoussi, c'est quelqu'un qui, pendant 40 ans, a porté Sciences Po, littéralement, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et ses enfants ont décidé, avec tristesse et désolation, en raison de ce qui se passe et de la discrimination qui règne, d'arrêter justement cette
bourse. Alors, j'entends bien. Ce qui est intéressant à Sciences Po, parce que je pense aussi à ceux qui nous écoutent, Sciences Po, ce n'est pas la France. Mais ce qui m'intéresse dans Sciences Po, c'est ce que ça révèle de la France. Oui. Donc je ne voudrais pas qu'on soit trop sur le fonctionnement de Sciences Po, la bourse, etc. Mais en revanche...
Ce n'est pas le fonctionnement de Sciences Po.
Oui,
Jean-Paul Fitoussi est un économiste... était un économiste mondialement connu, pardonnez-moi.
J'entends bien.
C'était alors, celui qui représentait l'école de Keynes. Donc franchement...
Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la réaction du gouvernement, la faiblesse du gouvernement, la découverte de ceux qui nous gouvernent, comme Mme Retailleau, ce que je trouve... effroyable, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est ça qui m'intéresse dans ce dossier. Alors écoutez Louis Boyard, parce que lui a pris la parole ce matin sur les étudiants de Sciences Po.
Quand il y a des blocages, alors là tout de suite ça commence à choquer. Pardon, moi ce qui me choque, c'est ce qui se passe à Gaza. Et ces étudiants sont en train de donner une grande leçon à ce pays. Quand on est citoyen de la République française et qu'on a sous nos yeux un génocide, on se mobilise, on utilise tous les moyens qu'on a en notre pouvoir pour obtenir la paix. Ces étudiants sont une fierté, ils honorent la France et je continuerai d'être à leur côté.
Quand vous dites je continuerai à être à leur côté, est-ce que ça veut dire, Louis Boyard, que vous appelez les autres universités de France à suivre le mouvement ?
À
entraîner des blocus.
Pour le coup, c'est les étudiants qui doivent eux-mêmes organiser leur combat.
Qu'à Lyon,
Bien sûr, mais par contre, plus il y aura d'étudiants qui rentreront dans le mouvement pour essayer de faire en sorte que le gouvernement français se bouge, mieux ce sera.
Bon, je rappelle le fameux communiqué de Sciences Po que j'ai sous les yeux qui imaginait organiser un town hall. Déjà,
Sciences Po qui parle un tone hall.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais comment est-ce possible? Je vous assure, mais comment ce pays peut-il accepter la direction de Sciences Po qui parle dans un franglais que personne ne connaît? Vous savez ce que c'est qu'un town hall?
Une réunion dans le hall?
Oui, je ne sais pas.
Bon, avec la direction et d'autres membres de l'institution, ouvert à toutes les communautés de Sciences Po d'ici jeudi prochain, c'était le communiqué. Une réunion lundi définira les conditions de préparation permettant de garantir la sérénité et la qualité de ce débat au cours de ce town hall. Toutes les questions pourront être posées, des discussions concernant les trois revendications pourront être menées. La suspension des saisies de la section disciplinaire engagée depuis le 17 avril.
Bah ça, c'est écrit noir sur blanc quand même.
C'est écrit noir sur blanc.
C'est clair, et c'est d'ailleurs la suite de ça.
La suspension des saisines de la section disciplinaire engagée. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Donc, Madame Pécresse, du coup, elle, alors, Madame Pécresse, ça fait deux ou trois dossiers.
Elle tranche.
Elle tranche avec fermeté.
Oui.
Elle a tiré peut-être les leçons de la présidentielle. Donc c'est intéressant, il faut saluer ça. J'ai décidé de suspendre tous les financements de la région destinés à Sciences Po, tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école. Boum ! Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisée par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative. Boum ! Une parole de bon sens, quand même. La région Île-de-France défend le droit à des débats libres, éclairés et respectueux au sein de l'université française, conformes aux valeurs universelles. Face au renoncement de la direction, la région appelle à un sursaut d'autorité. J'aimerais que Gabriel Attal dise la même chose.
La question des subventions, pardon, essentielle, vous pouvez en parler.
Oui, bien sûr. Moi, je pense en discuter justement avec des professeurs aussi. La réalité, c'est qu'à Sciences Po, même l'avenir financier va être en danger parce qu'on a un campus flambant neuf à Saint-Thomas qu'il faut rembourser. Et aujourd'hui, Sciences Po compte sur les donateurs, mais aussi sur les étudiants qui s'acquittent des frais de scolarité.
Ils sont chers. Hein,
qui sont très chers.
Ils sont à 11 000 euros par an.
Voire 18 000 euros en master.
Parce que ça a aussi changé. Tous ces jeunes gens sont des petits bourgeois, ceux qui sont...
Exactement, ce n'est pas des gens qui travaillent à côté de leurs études pour les financer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus d'étudiants qui s'acquittent de frais de scolarité, qui viennent à Sciences Po, si les bourses disparaissent, si les subventions publiques disparaissent, franchement, l'avenir même financier de Sciences Po est en danger.
Oui. Oh, je pense que
Les subventions, ça pénalise aussi les étudiants comme vous. Moi, c'est un petit peu ça aussi qui me gêne dans cette mesure, même si elle était nécessaire.
C'est la punition collective.
C'est une suspension provisoire.
Alors, écoutons Mme Retailleau qui a réagi.
Macron va proposer un emprunt, comme d'habitude.
Et écoutons Mme Retailleau qui a réagi au propos de Valérie Pécresse et après on parle de la Sorbonne.
La responsabilité de l'État, c'est une continuité du service public et de permettre aux 15 000 étudiants. Pour autant, on l'a déjà dit avec le Premier ministre, on a un contrat d'objectifs de moyens et de performance qui est en cours de discussion. Comme son nom l'indique, contrat d'objectifs de moyens, on a un levier pour discuter avec Sciences Po.
Attendez, là, vous êtes en train de me perdre un petit peu. Oui ou non? Est-ce que l'État va couper les subsides
non,
à Sciences Po? Non,
pas à court
Est-ce que Valérie Pécresse... À court terme, non.
Et non, pas. L'État ne coupera pas la subvention à Sciences Po.
D'accord.
L'État discute d'un contrat, comme tous les établissements avec Sciences Po.
D'accord. Est-ce que Valérie Pécresse a eu raison de faire ça pour la région de France?
Ça, c'est sa responsabilité. Sur son million, je laisse à Valérie Pécresse la responsabilité de ses décisions.
Bon, écoutez, objectif de moyens, tout ce langage-là, c'est infralangage. J'en peux plus. La Sorbonne, antisémitisme décomplexé. Alors, c'est intéressant, la Sorbonne, parce que c'est parce qu'il y a eu Sciences Po qu'ils sont intervenus à la Sorbonne. Donc, je pense quand même qu'il y a des leçons qui sont tirées.
Ils ne sont pas très nombreux quand même. Hein.
Mais surtout qu'ils craignent une contagion.
Les policiers sont intervenus à la Sorbonne.
On va voir.
C'est ce qu'on va voir. Contagion en France, dans toutes les universités.
Est-ce que Mélenchon va réussir son opération en essaimant en France, dans un certain nombre de grandes écoles ou d'universités?
C'est ça.
Moi, je n'ai pas la réponse à la question, mais c'est la crainte, puisqu'on est confronté à une opération qui est en fait une opération politique. Mais avec les résultats attendus, nous verrons s'ils sont là.
Je le répète, et c'est pour ça que Pierre-Alexandre est là ce matin, c'est combien de personnes au fond?
150 personnes, 200 personnes au grand maximum.
Au grand maximum.
Et ensuite, ce qui s'est passé vendredi, moi j'étais vendredi matin, j'ai essayé de me rendre à la bibliothèque quand j'ai été confronté à ce blocage. En réalité, on se demande qui manipule qui, parce que ce qui m'a frappé tout de suite, c'est de voir les écharpes tricolores, c'est d'entendre le discours d'un soi-disant responsable politique qui avait d'ailleurs eu une tribune le lundi à Sciences Po, et d'entendre tous ces étudiants parler de répression alors qu'on les a laissés faire, qu'en fait il y avait des élus qui étaient là pour les protéger, pour les manipuler à des fins politiques.
Et vous échangez avec eux?
C'est des personnes que je connais, c'est des personnes qu'on identifie, on n'échange pas avec eux, non. Il y a une forme de terrorisme intellectuel qui est installée à Sciences Po, et voilà, c'est la réalité.
Vous étiez dans l'amphi lorsque une jeune fille juive n'a pas pu entrer?
Non, non. Moi, j'étais pas sur le campus ce jour-là. Mais ce que je peux dire, c'est que, en effet, il y a un cours, ça c'est factuel, il y a un cours qui a été empêché à cause de ces étudiants. Et j'ai échangé avec une personne d'ailleurs qui est dans ce mouvement. Et je lui ai précisé, il y a tellement d'autres moyens d'expression, d'appel à la paix. Par exemple, si vraiment c'est un combat qui leur tient à cœur, il y a tellement d'autres moyens d'appeler à la paix. Ils auraient pu, voilà, faire un appel à la paix avec des t-shirts blancs devant Sciences Po. Mais non, c'est pas le choix qu'ils ont fait. Mais
l'exemple américain n'arrange rien quand même, parce qu'il y a beaucoup de blocages. Ça s'étend dans pratiquement toutes les universités. On va peut-être y revenir, j'en sais rien. Ouais. Biden a un vrai problème. Alors on va voir si ça va se
dénouer. Il répond au problème hein, quand même, Biden. Hein.
Ça va peut-être se dénouer ce week-end, c'est un autre dossier. Mais c'est vrai que l'exemple américain, ça ne me rappelle pas les années 70 avec la guerre du Vietnam, parce que c'est trop loin pour beaucoup d'entre nous. Mais néanmoins, aux États-Unis, ça prend de l'ampleur, beaucoup.
Est-ce que dans les cours, vous sentez une pression qui est mise ou sur les cours eux-mêmes ou par des professeurs ?
Alors, pas dans le master, en tout cas, auquel j'appartiens à l'école de droit, parce qu'en réalité, on a beaucoup d'avocats qui viennent intervenir.
Et c'est un certain niveau, j'imagine, pour avoir votre master, qui exclut, dans votre master, peut-être qu'il n'y a pas ce type d'étudiants.
Bah, surtout, il n'y a pas de place à de l'idéologie politique. Voilà, quand on étudie le code civil, voilà, à un moment donné, il n'y a pas de place à l'idéologie politique, c'est factuel.
C'est les premières années, les deuxièmes années, par exemple, qui manifestent, ou c'est toutes les années de ces...
Je pense qu'il y a un peu tout. Après, parmi les personnes que vous aviez vendredi devant le 27 rue Saint-Guillaume, tout le monde n'était pas étudiant à Sciences Po, il faut se dire la vérité.
Black Bloc,
exactement. Tout le monde n'était pas... Déjà, il y avait les élus qui avaient fait venir des personnes, il y avait des syndicats lycéens, il y avait d'autres personnes. Enfin, tout le monde n'était pas étudiant à Sciences Po. Donc, ils ont envoyé une image dévastatrice de notre école, mais tout le monde n'était pas étudiant à Sciences Po.
C'est votre dernière année, a priori.
Exactement.
Et là, vous partez, ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, pour les États-Unis. Donc, la Sorbonne, effectivement, la contagion, on en a parlé également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité universitaire. Et puis, je pense que ça...
Et Pascal, il y avait quand même... On a vu à l'image, hier après-midi, David Guiraud, qui est un député LFI.
Ils sont toujours là.
Avec le mec, comment on appelle ça, le mégaphone, ou tenir un discours qu'on n'a hélas pas entendu. Ça prouve ô combien qu'on a affaire à une situation politique.
Il y a des élections bientôt.
Il y a Rima Hassan à chaque fois.
Mais ça va être intéressant.
Il y a Rima Hassan, ils sont tous là à chaque fois.
Ah ben justement, puisque...
Rima Hassan et...
Sciences Po Rennes bloquées ce mardi matin par les étudiants pro-palestiniens.
Oui.
C'est un mimétisme.
Est-ce qu'il y aura contagion ou pas, c'est la question.
Apologie du terrorisme, puisque vous parliez de Rima Hassan et Mathilde Panot, elles sont devant la justice ce matin. Je crois que Noémie Schulz est avec nous et va pouvoir peut-être nous donner quelques éléments. Chère Noémie, est-ce que mesdames Panot et Hassan sont arrivées?
Alors, elles ne sont pas devant la justice, elles sont devant la police. Elles avaient rendu publique cette convocation, effectivement, pour apologie du terrorisme. Mathilde Panot et Rima Hassan, l'une va devoir s'expliquer sur le communiqué qui avait été publié le jour même des attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Et l'autre, Rima Hassan, est convoquée pour des propos tenus en novembre dernier. Elle avait dit, notamment dans une interview, qu'il était vrai que le Hamas mène une action légitime. Alors, elles sont convoquées, en tout cas pour Mathilde Panot, à midi et demi au siège de la police judiciaire, à la brigade criminelle qui se situe au 36 rue du Bastion, qui est dans mon dos. Nous n'avons pas accès, il y a un dispositif de sécurité très important ce matin. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un rassemblement était organisé à quelques dizaines de mètres d'ici en soutien à Mathilde Panot et Rima Hassan, qui d'ailleurs ont l'une et l'autre pris la parole pour dénoncer une censure, une instrumentalisation grave de la justice, une criminalisation, je n'y arrive pas de la pensée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être entendues en audition libre. Ça n'est pas une garde à vue. Ça pourrait durer entre 2 et 3 heures. Ça va dépendre notamment des déclarations qu'elles auront à faire. Et tout ça ne présage en rien des suites que le parquet de Paris va donner à cette affaire. Il peut demander plus d'investigations, les renvoyer devant la justice ou bien classer sans suite ces affaires. On en saura sans doute plus en fin de journée.
Merci beaucoup, Noémie Schulz. Je ne sais pas si c'est intéressant.
Que ce soit clair, c'est quand même une initiative du parquet. Personne ne peut imaginer, d'ailleurs, ce serait contraire à la loi, qu'il y ait eu une instrumentation ou des instructions prises par le garde des Sceaux. C'est une initiative du parquet. Alors après, j'entends depuis quelques jours dire que c'est une crimination du débat politique, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Encore ce matin, chez nous, Sébastien Chenu disait à peu près la même chose.
Non, en réalité, il n'y a pas d'atteinte à la liberté du débat politique. Il y a la recherche par le parquet de savoir si ces déclarations tombent sous le coup de la loi ou pas. La loi, c'est l'apologie quand même du terrorisme. Et les déclarations qui ont été faites, quand vous dites, vous légitimez quelque part l'action du terrorisme du Hamas, ou que vous refusez de dire que c'est un groupe terroriste, ça pose juridiquement un problème.
Si ça ne va pas au bout, si elles ne sont pas condamnées, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont dire, bah voilà, on avait le droit, on en ressort renforcé.
C'est pour ça que ça me paraît être une grosse maladresse. On verra bien.
Elles sont présumées innocentes, mais Mathilde Panot, c'était pour le...
C'est le sujet, présumé.
C'est de la politique, là.
C'est pas le sujet, les déclarations ont été faites. Le sujet, c'est de savoir est-ce que ça tombe sous le coup de la loi ou pas. Si ça ne tombe pas sous le coup de la loi, elles en sortiront renforcées.
Éric Zemmour avait été condamné, dans son temps, Jean-Marie Le Pen a été condamné. Il y a une parole publique qui ne peut pas s'exprimer en dehors des lois.
L'apologie du terrorisme, c'est le fait de présenter favorablement un événement terroriste de façon générale ou un cas particulier. Et
bah alors, ce qu'elle dit que c'est légitime le Hamas,
c'est
évidemment
c'est l'élément intentionnel. Est-ce qu'il y a eu la volonté de valoriser?
Il y a deux choses. Je pense que ces propos tombent sous le coup d'apologie du terrorisme.
Pour
est-ce
Mathilde
que c'est
Panot,
une bonne chose de la poursuivre et est-ce que ce n'est pas contre-productif?
Sur pour Rima Hassan, ce n'est pas exactement la même chose. Mais pour Mathilde Panot, c'est un communiqué de presse qu'elle a signé et elle a plus contextualisé que glorifié. Pour Rima Hassan, en revanche, ce n'est effectivement pas la même chose.
Voilà.
Bon, écoutez...
Et en mettant les deux, ça sera tout à fait raison, en mettant les deux ensemble, ça c'est...
C'est ça, pour moi le problème est là. Mathilde Panot a signé un communiqué en tant que présidente de LFI,
c'est une décision
alors que Rima Hassan a clairement dit dans c'était le média Le Crayon que c'était une action qui était légitime. Ce n'est pas du tout la même chose et les mettre toutes les deux ensemble, pour moi, ça pose une difficulté.
Le directeur de Neuilly, vous le savez peut-être, un directeur d'école accusé d'être anti-musulman après s'être engagé dans l'expérimentation de l'uniforme sur le réseau social Twitter. Le directeur a expliqué qu'il était devenu une cible et c'est lui qui a averti hier sur Twitter qu'il était menacé et s'il ne l'avait pas fait, manifestement, il a fallu que cette affaire soit médiatisée. Autrement, Madame Belloubet ne bougeait pas, si j'ai bien compris. Voyez le sujet d'André Berthaud.
Je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans.
La faute à ce tract diffusé par un groupe appelé Collectif de défense de l'école publique de Neuilly-sur-Marne.
L'obsession vestimentaire de M. Bourrez cachait une obsession anti-musulman. Pour quelle raison s'est-il exprimé dans un magazine classé par la presse à l'extrême droite? Ce même directeur d'école s'est allié avec le maire de la ville pour faire une propagande pour le port de l'uniforme dans les écoles primaires.
Le tract qui vise M. Bourrez est un tract odieux. On qualifie d'obsession anti-musulman la participation à une expérimentation très officielle et voulue par les plus hautes autorités de l'État.
Une centaine d'établissements volontaires vont expérimenter dès la rentrée prochaine l'uniforme à l'école. Mais aujourd'hui, ce directeur, qui souhaite faire partie de cette expérimentation, se sent en danger.
Là, je suis en arrêt maladie, je vais prendre quelques jours pour souffler. On ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord sur un projet ministériel, dire tout et n'importe quoi et tout de suite afficher la personne en face comme étant islamophobe et puis s'en débarrasser, quoi.
La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a indiqué qu'un signalement avait été fait au procureur et qu'une protection fonctionnelle avait été accordée au directeur. Ce dernier a porté plainte pour diffamation aggravée.
Un commun de tous dont on traite ce matin quand même, que ce soit Châteauroux, Sciences Po, la Sorbonne, c'est un affrontement communautaire qui se met en place. C'est ça.
Non, mais l'école est en danger. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il ne faut pas non plus dramatiser pour le plaisir de dramatiser. Mais enfin, quand on constate ce qui s'y passe, là, vous vous rendez compte, le point de départ, c'est quoi? C'est la tentative ou l'expérimentation du port de l'uniforme dans certaines écoles. Ce directeur, apparemment, on lui reproche, a eu le tort de dire « Bah oui, moi, je tente très bien l'expérience. » Et il y a un comité, on ne sait pas d'où il vient, de qui est... C'est inacceptable.
Oui,
on
ne
peut pas laisser les choses continuer comme ça et regarder en l'air.
Je vous rappelle quand même les mots très forts de Gabriel Attal qui
nous écoute
et
a quelque chose à dire sur ce sujet.
Il y avait des préceptes de la charia s'appliquaient dans les écoles en France.
Pardon ?
Gabriel Attal avait reconnu que les préceptes de la charia s'appliquaient dans certaines écoles en France.
Je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. Ça s'appelle un affrontement communautaire que certains avaient annoncé, si vous me permettez. Et qui, effectivement, aujourd'hui, semble...
Comment ? Était quelque peu montré du doigt. C'est cela.
Noémie Schulz, qui nous écoutait, voulait intervenir précisément sur ce sujet, puisque je crois que vous avez été en contact avec le rectorat hier, Noémie.
Oui,
Absolument. Je vous ai entendu dire qu'il avait fallu attendre la médiatisation pour que le ministère de l'Éducation nationale agisse pour ce directeur d'école. Et je voulais juste apporter une précision, c'est que le rectorat de Créteil avait été informé de ce tract il y a déjà plusieurs jours et avait effectivement contacté ce directeur d'école, lui propose de l'aider, de l'accompagner dans ses démarches judiciaires, de payer notamment les frais d'avocat. Un signalement avait été fait au procureur de la République et un signalement avait été également fait à la préfecture, et c'est la préfecture qui, de son côté, doit voir si cet homme doit bénéficier d'une protection en raison de la gravité, de l'intensité des menaces dont il fait l'objet. Et je crois aussi savoir qu'il est régulièrement en contact avec des gens du rectorat qui s'assurent que, voilà, s'il a besoin d'une aide psychologique, ça lui est également proposé. C'était juste important de préciser les choses.
Justement, ça ne suffisait pas parce qu'il a fallu qu'il en parle, Noémie. Moi, je veux bien, mais pourquoi en a-t-il parlé à ce moment-là? C'est lui qui parle. Manifestement,
je ne dis pas que ça suffit. Je vous dis juste, Pascal. Je vous dis juste, Pascal, qu'il n'a pas fallu attendre la médiatisation pour que le rectorat de Créteil s'intéresse au sort de ce directeur d'école.
Est-ce qu'on peut juste rappeler le contexte, parce que ça se passe une semaine,
parce qu'il est 9h54,
ça se passe à Neuilly-sur-Marne. On a reçu le maire qui a été théâtre de violents affrontements, des émeutes en juillet dernier. Donc c'est un élément qui est hautement inflammable. Pardon.
Bon,
merci.
Je remercie Pierre Alexandre Zal. Je ne doute pas que ça se passe bien pour vous. C'est quoi votre programme, par exemple, aujourd'hui?
Alors, retourne à Sciences Po pour bosser.
Vous aviez cours, vous avez manqué un ou deux cours pour venir avec nous?
Non, là on est en période d'examen, de révision.
Ouais. C'est partiel.
Et nous, voilà, on a plutôt des papiers à faire, etc. Un mémoire notamment.
Et vous travaillez combien d'heures par jour en
ça
ce
dépend,
moment?
Ça dépend vraiment.
Vous trouvez que c'est beaucoup de travail, Sciences Po?
C'est beaucoup de travail si on se donne les moyens de faire autre chose et de vouloir en profiter au maximum.
C'est-à-dire?
Si on fait, si on saisit toutes les opportunités qui nous sont données, si on fait des stages à côté, là, ça peut être beaucoup de travail, oui.
Et vous faites des stages à côté?
Oui, j'en ai fait tout du long.
Et vous faites quoi comme stage?
J'étais en cabinet d'avocat.
Beau parcours.
Et manifestement,
hein.
Vous êtes décidé et déterminé à avoir une carrière professionnelle de premier ordre. Merci en tout cas d'être passé, Pierre-Alexandre, par ce plateau. Et alors, on va recevoir, on aime de temps en temps faire un pas de côté, on parlera bien sûr de toute l'actualité, mais j'ai lu ce bouquin, j'étais passionné par ce bouquin. L'IP est une fête.
Ah. Sur la brasserie?
La brasserie.
Bon, ah, c'est la brasserie. J'ai trouvé ça formidable. Alors,
oui.
C'est l'underground, peut-être parisien, c'est l'entre-soi, etc. Mais bon, vous avez sans doute dîné tous les uns les autres, Philippe.
Oui. Je suis allé il y a quelques semaines déjeuner et il y a toujours l'ambiance.
Bon, et c'était bon?
Oui, excellente. Bon,
excellent. Vous avez payé?
Je ne sais plus.
Bon.
Non, je crois
que c'est... Et alors, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'une personnalité vient déjeuner ou vient dîner chez l'IP, il y a une sorte, non pas de livret d'or, mais de livre où on dit Jean-Claude Dacier a déjeuné. Par exemple, ça doit être marqué Jean-Claude Dacier a déjeuné le 12 avril 1975, n'importe quoi.
C'est Lorraine Bacal, puisqu'elle venait souvent. Et
exactement.
Passer de Jean-Claude Dacier à Lorraine Bacal, c'est...
C'est l'un des pros.
D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de donner quelque chose à Marine Lançon. J'ai oublié de faire quelque chose. J'avais un témoignage avec Jacques Laurent. Je crois que, Marine, je ne vous ai pas donné le témoignage INA. Non, bon alors ça c'est regrettable. Mais on va essayer quand même d'y remédier. Merci, ça c'est à la bonne franquette comme chez Lip. Bon, la pause, à tout de suite. Lip est une fête et c'est aux éditions du Rocher. Je salue d'ailleurs Arnaud Le Guern, qui est un remarquable éditeur et un garçon extrêmement sympathique. L'IP est une fête, le monde entier défile dans la célèbre brasserie. Moi, j'ai adoré ce bouquin, parce qu'effectivement, c'est un bouquin qui parle d'autre chose. C'est un autre espace, l'IP. Alors évidemment, c'est très entre-soi, sans doute, l'IP, c'est très parisien. Mais justement, on vient peut-être chez l'IP comme on vient à la Tour Eiffel.
Oui, exactement. Alors moi, je pense que l'IP, c'est un peu un monument historique.
Oui.
C'est quand même une brasserie qui est ouverte depuis 1880. Au même endroit, même décor depuis 1920. Et on vient ici, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. C'est le centre du monde pour moi, l'IP.
Alors, il n'y a que des hommes qui servent.
Il n'y a que des hommes. C'était inscrit dans le premier bail, qui ne serait plus aujourd'hui d'actualité, mais en 1880, dans le premier bail, il était interdit d'employer des femmes au service.
Bon, et ça n'a pas changé. Parce que même les francs-maçons, au Grand Orient, il faut entrer les femmes. Mais chez l'IPS, c'est impossible.
Et on n'a jamais refusé.
Pas dans toutes les loges. Au Grand Orient, oui. À la GLNF, non.
Ça, je ne savais pas, la GLNF, mais le Grand Orient est mixte. Mais jamais, c'est jamais une demande. Il n'y a pas une femme de temps en temps qui vient frapper.
Exactement. On ne peut pas refuser aujourd'hui. La loi nous l'interdit. Mais il n'y a pas de demande de femme pour venir travailler chez lui. C'est un métier assez physique, le métier de chef de rang. On porte un plateau, les assiettes sont lourdes.
Il y a plein de femmes qui sont serveuses.
Monsieur Guittard, faites attention à vous, là, monsieur Guittard.
Non, mais c'est vrai. Les
assiettes sont lourdes.
Monsieur Guittard. Bon, alors, vous êtes resté combien de temps chez l'IPS ?
30 ans.
30 ans. Donc, vous êtes rentré, alors vous êtes tapé à la porte parce que vous aviez été viré, je crois, ou vous étiez un peu au chômage. Vous êtes rentré serveur et vous avez terminé directeur.
Oui.
30 ans. Donc, vous avez tout vu, vous savez tout.
Presque tout.
Bon, l'IP est une fête, on en parlera, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, vous nous avez apporté, alors ça, c'est formidable, je disais le cahier des personnalités, parce qu'il y a un cahier. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est légal de nommer des gens qui sont dedans. Hein. On pourrait dire que vous n'avez pas le droit de la confidentialité.
On ne le diffuse pas, là. J'ai apporté celui de 1956.
Alors, vous pouvez nous dire, par exemple, quelles sont les personnalités qu'on dînait, Jean-Claude Dacier?
Non. Pas en 56.
Jean-Claude Dacier a déjeuné en 56.
Mais ça commence le 14 septembre 55, oui. On voit le général de Bénouville qui est de retour du Maroc où il a interviewé le sultan Ben Arfa.
Ah oui.
Ça nous et implose. Il croise Bourges Mounouri qui est le ministre de l'Intérieur en exercice et Bénouville lui dit l'opposition n'a pas d'exercice ici.
Mais c'est marqué là-dedans.
Et c'est marqué.
Et ça, c'est le premier cahier. Donc avant 55, ça n'existait pas.
Non, ça n'existait pas.
Et tous les jours, il y a le cahier des personnalités.
Il y a une litanie.
Donc le chef de rang écoute les conversations.
Donc là, Jean-Claude Dacier, quand il est allé l'autre jour, il est allé il y a 10 jours, le jour où il est
parti. Avec M. Darmon, Jean-Claude.
Voilà, il n'a pas payé. Ah, là, vous n'avez pas payé, là. C'est Jean-Claude qui vous a invité.
C'est possible.
Oui, ça m'étonne pas. Bon, mais là, c'est marqué Jean-Claude Darmon, Jean-Claude Dacier ?
Certainement.
Ah oui.
Allez, non.
En tout cas, la blanquette était superbe. Et le chef est venu nous dire. Mardi.
Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne.
C'est une discussion intéressante.
C'était la blanquette. Bon. Si c'est le mardi, j'étais là.
Exactement. Bon, là-bas. J'ai 70 ans qu'il y a de la blanquette le mardi.
Ah, oui. Ah bon?
Oui. Excellent.
Avec un plat du jour en plus.
Chaque jour, il y a.
On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi une actualité un peu plus sérieuse, j'ai envie de dire. Mais le diable est dans les détails. Michael Dorian.
Pas d'écran avant l'âge de 3 ans, c'est ce que préconise un nouveau rapport qui doit être présenté à Emmanuel Macron aujourd'hui. La commission d'experts alerte sur la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et les conséquences pour leur santé, mais aussi pour l'avenir de notre société et civilisation. Des commerçants en colère à Bordeaux, un arrêté municipal a été pris pour fermer les magasins d'alimentation après 19h. Un moyen pour la mairie de lutter contre le trafic de drogue et l'insécurité qui s'installe dans le quartier. Et puis un campus occupé au Canada, à Montréal, des tentes et des drapeaux palestiniens ont été dressés par des étudiants militants. Alors que l'université de Columbia, d'où est parti le mouvement, aux États-Unis a commencé à sanctionner les étudiants qui refusent de quitter le campement.
Un mot sur les écrans, parce que j'ai entendu ça ce matin et c'est vrai que j'ai une capacité parfois à me mettre en colère ou à me faire réagir. C'est pas à l'État de décider de ça. C'est aux parents. C'est tellement de bon sens. On va pas demander à l'État de pas mettre des enfants de moins de 3 ans devant des écrans.
Vous avez besoin d'un rapport pour ça, pour savoir ça?
T'as pas besoin d'un...
On ne devrait pas, mais il y avait quand même une incertitude chez beaucoup de mamans ou beaucoup de familles qui se débarrassent parfois un peu.
Vous mettez pas vos enfants derrière un écran, ça s'appelle le
bon. Oui, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire.
Pas moins de 3 ans. Quand on est l'été, parfois sur les plages ou sur des hôtels, c'est là qu'on est au contact parfois.
Les enfants sont attirés.
Ils sont tous derrière.
Mais t'es effrayé de voir au petit déjeuner dans un club de vacances.
Pour la tablette.
Des gosses sur la chaise bébé.
Oui.
Bébé, donc ils ont 1 an, et les parents leur mettent un écran pour avoir la paix.
Absolument.
Et si tu l'enlèves, le gosse crie. Et toi, t'es en train de boire ton café et tes toasts.
Mais ça, c'est l'autorité parentale, c'est pas l'État.
Mais là, c'est pas l'État de faire ça, quand même.
On a des enfants, on est titulaires de l'autorité parentale.
Mais c'est pas l'État.
C'est pas à l'État d'envoyer des flyers pour expliquer que c'est pas bien. Quand vous avez des enfants, vous avez l'autorité parentale.
Un point de vue libéral s'impose.
Jean-Claude Dacier.
Non, c'est bien. Non, mais ça aide les parents
et ça
plaît aux enfants. Mais je suis d'accord avec vous, c'est dangereux, tout le monde le dit.
Enfin,
ça veut dire que vous ne voulez pas vous occuper de vos enfants quand vous mettez un écran à un enfant d'1 an. C'est que vous ne voulez pas vous en occuper.
Alors, c'est le bon sens. Donc, c'est quoi? C'est moins de 11 ans pour un smartphone, déjà, ce qui est une bêtise. Tu donnes à ton enfant un téléphone. Oui. Le Nokia 3660, je ne sais pas quoi. 3310. Avec le petit clapet, combien c'était?
C'était 3310.
Tu donnes le Nokia 3310 à un enfant pour qu'il puisse appeler s'il est en difficulté, mais tu ne lui donnes pas un smartphone pour aller à l'école.
J'ai peur qu'il soit un peu tard.
Ils n'ont pas à 12 ans, ils l'ont même en primaire. Donc à partir de là, tout est dit. Ils l'ont même en primaire.
Oui, je crois que c'est un peu tard. L'État se réveille tardivement.
Vous voyez, le téléphone, alors dès 11 ans, téléphone sans Internet, dès 13 ans, smartphone sans accès aux réseaux sociaux, et dès 15 ans, uniquement au réseau dit éthique.
Mais enfin, non, mais éthique, ça veut rien dire.
Mais les parents, moi je connais plein de parents qui sont responsables, je peux vous dire que c'est une... D'abord, ils regardent ce qu'il y a dans les smartphones des enfants. Oui. Ce qui est la moindre des choses.
Alors ça, Jean-Michel Apathy a fait un édito là-dessus pour dire que c'était une honte de ne pas respecter la vie privée des enfants et de fouiller un édito entier et de fouiller dans les portables de ses enfants.
La vie privée d'un enfant de 12 ans ?
Voilà, il réagissait à ce qu'avait dit Sabrina Christian-Bach.
Non mais franchement, on est... la vie privée d'un enfant de 12 ans.
Enfin d'un mineur.
Non mais 12 ans, c'est pas la même chose que 18 ans. Tu vas pas ouvrir les tiroirs de ton gosse de 18 ans. Mais à 12 ans... Tu le protèges en fait. Tu sais pas ce qu'il y a dans son portable. Ça s'appelle éduquer les enfants.
Mais c'est pour sa sécurité aussi.
Il y a heureusement beaucoup de familles qui décident quand même, sans avoir lu ce rapport d'ailleurs, de donner le portable pendant une heure ou pendant deux heures aux enfants d'un certain âge et puis ça te saoule.
Bon. C'est pas l'enfant, il a besoin d'un portable qui puisse téléphoner, pas qu'il puisse aller sur les réseaux sociaux.
Je suis bien d'accord. On n'a pas de désaccord.
Bon, écoutez. Je salue Thierry Orsonic et j'ai dit club de vacances, donc lui il est au club Méditerranée, donc il me dit que les clubs de vacances c'est une obsession, me dit-il. Non,
bah alors le club au club Méditerranée.
Ça veut dire qu'on a besoin d'un rapport pour ça.
Je vais pas forcément au club Méditerranée. D'ailleurs, je vais pas dans les clubs forcément non plus.
C'est intéressant, bon. Vous parlez à vous-même en plus.
Oui, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que je parle à moi-même. Bon, alors intéressant quand même, parce que quand on dit que les choses bougent, elles bougent lentement, certes, mais la circulaire relative à la laïcité, et vous allez voir la décision prise par... Éric Dupond-Moretti, chacun se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas en France. Peut-être trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme dit l'autre. Écoutez ce sujet de Juliette Sada.
Dans le viseur du garde des Sceaux, les pressions communautaires ou les violences commises envers les personnes jugées comme pas assez sincères dans leur foi ou ne respectant pas certaines pratiques religieuses. Dorénavant devront être considérées comme circonstances aggravantes les agressions en raison de l'appartenance ou non de la victime à une religion. La circulaire du ministre de la Justice pointe également les pressions sur les professionnels de santé, sollicités parfois pour attester de la virginité d'une personne. Réprimer aussi les pressions sur les croyances des élèves ou les tentatives d'endoctrinement de ceux-ci, ainsi que les comportements menaçants, violents ou intimidants commis à l'égard de personnes chargées d'une mission de service public. Le ministre de la Justice demande une réponse ferme, rapide, et demande la sollicitation des représentants des cultes afin de permettre un échange d'informations efficace. Une circulaire prise notamment à la suite des différentes affaires ces dernières semaines. Samara, 14 ans, tabassée à Montpellier début avril, après avoir été traitée de mécréante par ses agresseurs. Et la mort de Chemseddine, rouée de coups près de son collège, après des échanges sur la sexualité avec la sœur de deux des suspects.
Alors, comme l'ARCOM, monsieur, regarde avec attention, j'ai cité le Club Méditerranée, donc je vais citer Fram, je vais citer Jet Tour, je vais citer, si vous avez, c'est le moment, si vous citez des clubs de vacances, c'est le moment pour faire le plein.
VVF ça.
Comment ?
VVF ?
VVF ?
Je ne connais pas.
Ah oui, j'avais compris, PGF, bon, les pompes funèbres générales, ce n'est pas la même chose.
Non, VVF, village, vacances, famille.
Exactement, VVF. Donc voilà, nous sommes en règle avec l'ARCOM. Bon, c'est intéressant cette circulation relative, mais tout ça n'existait pas il y a 10 ans. On expliquait que ce qui se passait dans l'hôpital, c'était de l'invention. C'était ne stigmatisez pas, ne rapportez pas.
C'était une invention, oui.
C'était une invention.
Oui, c'est ce qu'on disait.
Donc, on arrive trop tard, en fait. On fait une circulaire aujourd'hui pour réguler quelque chose qui existe depuis 15 ans. Et qui n'existait pas, qui était nié. Non, ça n'existe pas.
Ah, c'est ce qu'on fait tout le temps. On agit toujours en réaction et pas en action. On n'anticipe jamais.
Non, mais c'est intéressant.
Intéressant. On est quand même
Parce que certains le disaient. En fait,
Le réel, certains revenaient de l'hôpital et avaient vu ça.
Il suffisait d'aller dans un hôpital.
Certains disaient ce qui se passe dans les classes, c'est le rapport au bain, etc. Je ne vais pas reprendre le temps. Ça n'existe pas.
Soigné par des hommes.
Ça n'existe pas.
Bien sûr, bien sûr. On est quand même le pays qui a voté une loi contre le séparatisme. C'est quand même pas rien. Qui a dû interdire la baïa, qui a dû interdire le voile. Enfin,
oui,
on voit bien
tout
que
tout ça est très
à l'école, le voile.
Hein. Ouais. Tout ça est très récent. Alors, la vague extrémiste en Occident, l'avertissement prémonitoire d'un ministre des Émirats. Vous l'avez peut-être écouté depuis ce matin sur CNews. C'est le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Monsieur Abdullah bin Zayed a republié l'extrait d'une interview de 2017 dans laquelle il prévoyait l'échec de l'Occident à appliquer des mesures contre les extrémistes ayant émigré du Moyen-Orient. Voyez cet extrait et après on écoutera Claude Moniquet.
Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe en raison de l'absence de prise de décision. De la volonté d'être politiquement correct ou de la supposition qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance.
Et Claude Moniquet qui connaît bien
ce sujet. Le roi du Maroc nous avait prévenu aussi, souviens-toi.
Ah. Écoutez Claude Moniquet.
À partir des années 2000 et surtout évidemment 2015 avec l'État islamique, l'Europe est devenue un exportateur de terrorisme islamiste. Et ça c'est renversant et ça se double en plus de la montée non plus du terrorisme, mais de l'islam politique dont on vient de parler avec cette question de l'imposition du fait religieux, qui est également quelque chose qui laisse nos amis et observateurs du Moyen-Orient et du monde arabe et musulman complètement éberlué, parce que nous n'avons pas, disent-ils, la volonté de nous battre pour nos valeurs et pour nos lois.
Ça fait 20 ans que j'ai des contacts avec des responsables de sécurité dans les pays arabo-musulmans, au Maroc, en Algérie, aux Émirats, en Égypte, à Bahreïn ou dans d'autres pays musulmans, et ça fait, ou avec des militants des droits de l'homme au Yémen, en Iran, au Liban, et ça fait 20 ans que je les entends nous répéter. Que faites-vous en Europe? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi avez-vous aussi peu, montrez-vous aussi peu d'autorité? Pourquoi vous laissez-vous piétiner et insulter? Ce sont les termes qu'ils utilisent à longueur de journée.
On ne pourra pas dire, selon l'expression, qu'on n'était pas prévenu.
On ne savait pas.
Oui, mais il faut, oui, absolument. Et c'est l'occasion de rappeler que c'est quand même en nombre les musulmans qui sont le plus de victimes de l'islamisme radical, que ce soit en Afghanistan, au Pakistan ou ailleurs. Donc, quand on arrive, nous, à exporter ce genre de choses, c'est vraiment le monde à l'envers, quoi.
Et on peut s'interroger sur l'avenir de la laïcité, qui est durement secouée aujourd'hui.
Je ne veux rien dire pour les gosses de 20 ans. Vous
parlez non, laïcité, hélas. Parce que ça ah oui, mais c'est le problème.
Il faut parler de la France et de la culture.
Oui, mais c'est la même chose et on n'en parle pas beaucoup. On en parle pas beaucoup non plus.
Rappelons aussi que donc, le ministre des Affaires étrangères, qui est ministre des Affaires étrangères depuis à peu près, je crois, 15 ans, des Émirats arabes unis, il a signé les accords d'Abraham. Ils sont toujours en négociation et en accord avec Israël, quoi qu'on pense et quoi qu'on puisse dire. Les étudiants qui manifestent devant Sciences Po seraient extrêmement, extrêmement étonnés. Et lorsqu'il y a eu un problème d'agitation faite par l'Iran à Bahreïn, ils sont intervenus d'une manière un peu musclée.
Avant de parler de Lip et de Claude Guittard, Lip est une fête, le monde entier défile dans la célèbre brasserie. On verra d'ailleurs un extrait tout à l'heure d'archives que j'ai trouvé, je ne sais pas si vous étiez présent, où Boîte aux lettres avait été enregistrée avec Jacques Laurent, qui écrivait tous les jours, manifestement. Oui. Boîte aux lettres qui était à l'époque présentée par l'homme qui a fait le masque et la plume pendant 30 ans. Jérôme Garcin. C'était formidable, Boîte aux lettres. C'était le dimanche soir,
il manque beaucoup au masque et la plume. Il manque beaucoup au masque et la plume, Jean Garcin.
Ah oui, et vous verrez l'extrait parce que c'est vraiment intéressant. Mais un mot sur Jean-François Akili, licencié par Radio France. Personne ne le défend, bien évidemment. Reporters sans frontières n'a fait aucun tweet. Accusé d'avoir participé à l'écriture de l'autobiographie du président du RN, Jordan Bardella, le journaliste politique Akili a été licencié par Radio France. On a l'impression que c'est pour manquement répété à la déontologie. Bon, Jean-Philippe Bay, qui est le directeur de Radio France, de France Info, pardon, a pris la parole dans Le Parisien. Il a dit le dossier est malheureusement conséquent. Moi, j'ai pas souvenir de ça. J'ai pas souvenir d'un directeur de l'info qui vient dans Le Parisien expliquer pourquoi il est véreux de ses journalistes.
C'est vrai.
Franchement, je n'ai pas souvenir dans la presse française.
Des journalistes qui ont fait des livres avec des hommes politiques en activité. Mais il y en a à l'appel. Donc je ne sais pas, ou alors on ne connaît pas le détail du dossier, mais je trouve que ce licenciement est absolument scandaleux. Je le crains.
C'est parce que c'est M. Bardella.
Je ne sais pas ce qu'on nous dit, mais je le crains. C'est scandaleux.
Je vous dis, directeur de l'info qui vient dans un journal... C'est une honte, bien sûr. C'est une honte pour notre métier. Le dossier est malheureusement conséquent. C'est une série de conflits d'intérêts qui nous a fait aboutir à cette décision de licenciement. La décision de France Info n'est pas politique. Ça s'appelle de la dénégation. La décision de France Info est évidemment politique. Les deux avocats, d'ailleurs, entre France Info et Akili avaient échangé ensemble, étaient tombés sur un compromis. Et Mme Veil a dit non, c'est politique, parce que Mme Veil, elle saute autrement. C'est les syndicats qui décident. Oui. Donc ils gardent tous leur place. Jean-Philippe Bas, il n'est rien à France Info. Il faut bien comprendre que le directeur de l'info ne sert à rien. C'est les syndicats qui décident. Donc lui, il garde sa place. C'est tout ce qu'il fait.
Attends,
la décision de France Info n'est pas politique, mais purement et simplement déontologique. Comment ?
Pour faute grave, c'est pas anodin, je veux dire.
Pour faute grave, tu vires un de tes confrères. Tu vires M. Baye et l'homme qui vire un de ses confrères pour rien, qui le met dehors.
C'est vrai qu'à part nous, peu de gens...
On attend de voir la décision du Conseil des
Prud'hommes. Dans une glace.
Non, mais on attend de voir la décision du Conseil des Prud'hommes aussi.
J'espère.
C'est la première fois qu'on vire pour intention.
Mais c'est incroyable. Il n'y a aucun journaliste de France ne dit rien.
Suspicion d'intention.
Suspicion d'intention. Aucun journaliste de France ne dit rien. Je veux dire, on est seul à avoir dit quelque chose.
Le SNJ ne dit rien. Étrange, le syndicat leader, majoritaire, ne dit rien.
Le service public de l'audiovisuel se déshonore. On est loin de Je suis Charlie, a dit Sébastien Chenu. Nicolas Dupont-Aignan, scandaleux acharnement de Radio France à l'égard de Jean-François Akili, qui n'a commis aucune faute professionnelle. Bon, voilà.
Il y a un député socialiste aussi qui a réagi. Oui, c'est important.
C'est ce que j'allais dire. Oui. Merci Gauthier.
Lequel?
Monsieur Brun. Je vais trouver son.
Monsieur Brun.
C'est son nom de famille.
Évidemment, quand je pense à Monsieur Brun, je me dis qu'on va jouer aux cartes.
Voilà, pétanque.
Monsieur Brun.
Non, c'est important, il n'y a pas que des voix de droite.
Bah, écoutez, franchement, c'est vraiment...
Il n'y a pas une vraie levée de bouclier.
Je trouve que c'est pas bien.
Voilà, Philippe Brun soutient Jean-François Akili, dont la déontologie n'a jamais été remise en cause avant cette chasse à l'homme orchestrée contre lui. Philippe Brun, qui est député socialiste de l'heure.
Voilà un homme qui a 61 ans, qui a traversé la vie professionnelle, qui est jeté comme un chien, pour faute grave, qui est humilié, qui est dont l'honneur est sali, pour le moins. Enfin, c'est pas convenable, bien évidemment.
Et le pire, c'est ceux qui s'en réjouissent. Et notamment dans la presse.
Oui, bah, bien sûr, évidemment. Bon, l'IP est une fête. Le 17 janvier 92, pour la première fois, vous franchissez la porte de l'IP. Alors, quel est le client le plus régulier que vous ayez eu durant toutes ces années?
Bon, le client le plus régulier, je dirais que c'est Jean-Paul Belmondo. Parce qu'il habitait à deux pas et qu'il adorait l'endroit et qu'il venait déjeuner avec ses potes ou avec sa famille. Et il était là très, très souvent.
Jusqu'à la fin, il est venu une fois par semaine au moins. La table 1 était devenue la sienne et une photo de lui est désormais accrochée au-dessus, apposée sur le verre de la cloison qui sépare la salle du comptoir. Sa table a attiré, qu'il partageait avec ses copains. Ils étaient nombreux, leur amitié remontait aux années 50, Rochefort, Claudrich, etc. Parce que, alors, il faut expliquer quand même à ceux qui ne sont jamais entrés chez l'IP.
Oui.
D'abord, vous avez une sorte de terrasse.
Oui, une petite terrasse couverte.
On peut déjeuner
peut déjeuner, là.
Après, vous avez grande salle.
La porte tambour, il faut passer la porte tambour. C'est quand même le moment clé. Passer la porte tambour dans le bon sens pour rentrer dans la première salle. Et si vous l'avez passé dans le bon sens, vous êtes déjà un peu mieux considéré.
Bon. Ah oui, parce qu'il y a un mauvais sens.
Oui. Oui, parce que c'est une porte qui tourne dans les deux sens, sens des aiguilles d'une montre et sens contraire. Pour des raisons évidentes de sécurité, il faut qu'elle puisse tourner dans les deux sens.
Ah donc, si vous êtes un ringard, si vous l'avez là, les gens...
Oui.
Alors, par exemple, quand Jean-Claude Darmon le dure à déjeuner, lui, il l'a prise dans le bon sens.
Et puis,
il est en bas, lui. Il a le droit d'être en bas.
Bien sûr.
Bon, mais parce que... Alors, il y a le bas et puis il y a le haut.
Il y a le bas.
Alors, le haut, c'est...
Il y a le bas, la première salle, dite le paradis. Il y a la salle du fond, qui est dans l'ancienne arrière-cour de l'immeuble, qui est le purgatoire. Et il y a le premier étage, qui est l'enfer.
Ah oui,
ouais.
L'enfer.
Et après, l'enfer, c'est-à-dire quand tu vas... Mais pourquoi l'enfer? C'est pas bon? C'est moins bien? Tu manges, on te donne des vieux plats?
C'est aussi bon. On a la chance d'avoir beaucoup de clients, donc on ne peut pas installer tout le monde en bas. Et donc le tri se fait, comme je vous dis, par la porte tambour déjà. Ceux qui prennent la porte tambour dans le mauvais sens, ils ont toutes les chances de se retrouver au premier étage. Puis il y a ceux qui souhaitent aussi être au premier étage, parce que c'est plus discret.
Oui, mais alors, quand on est, alors Jean-Claude, il était au paradis, j'imagine.
Bien sûr.
Il est au paradis. Bon, alors là, tout le monde te voit au paradis. Parce que, bon, est-ce que ça a toujours le succès que ça avait dans le temps? Est-ce que au cours de ça, est-ce que c'est moins à la mode? On va citer d'ailleurs Célib, mais à Paris, il y a beaucoup d'endroits un peu chics qui existent.
Près de l'Élysée. Non.
Voilà, près de
l'Élysée. Évidemment, oui.
Bien évidemment. On pourrait citer d'autres restaurants. Mais est-ce que c'est moins à la mode que ce ne le fut dans les années 60-70?
Non, moi je ne crois pas. C'est toujours aussi. Alors c'est la clientèle qui a un peu changé. On a peut-être moins de politique aujourd'hui.
Mais est-ce que vous avez des jeunes?
Oui, oui, il y a un vrai renouvellement.
Mais il y a des jeunes, alors il y a des jeunes comédiens, des jeunes journalistes, oui, des jeunes artistes qui viennent régulièrement.
Oui, parce que c'est vraiment un point d'ancrage. Je vous dis, cette maison n'a pas changé depuis 1920. Les décors sont figés. La carte n'a pas changé depuis 1930 ou 40.
Je veux dire, c'est les mêmes plats.
On sert les mêmes plats.
C'est quoi le plat vedette de chez Lip?
Le plat vedette, c'est la référence à l'Alsace, hein, de son fondateur Léonard Lip, c'est la choucroute. On vient pour des plats à base du chou et de viande de porc.
Même l'été?
Même l'été. C'est la choucroute est le plat le plus vendu le 14 juillet.
La brasserie Lip n'est pas labellisée, même si c'est une maison qui évoque bon nombre d'illustres de tous les domaines. Alors Marguerite Duras, Pierre Berger, Jean-Paul Belmondo, François Mitterrand, Jacques Laurent. Bon, il y a beaucoup de morts hein, quand même là-dedans.
Bien
Jean Dutour, Cabu, Albert. Alors Albert Cossery qui vivait dans le 6e arrondissement. Alice Sapritch. Qui se souvient encore d'Alice Sapritch, qui était une vedette immense des années 70. Mais les jeunes, Sarah Salman, vous savez qui est Alice Sapritch?
Absolument pas.
Mais la folie des grandeurs.
Mais
la folie des grandeurs.
Mais Pierre-Louis, enfin vraiment.
La folie des grandeurs, la scène avec le chien dans la haie.
Chérie. Extraordinaire.
C'était le Luron qui imitait évidemment. Bon, Verlaine. Alors avant, il y a eu Verlaine. Alors moi, un jour, je suis allé à la table 1.
Ouais.
La table, je vous ai dit, quelle est la table?
Table 30.
C'est la table de Picasso.
C'est en face de la table 1.
Oui.
Et c'est la table où Picasso déjeunait et dînait souvent. Il y a une photo de lui prise par Brassailles à cette table.
Bon, et parce que chacun, évidemment. Et quelle est la table 1, c'est laquelle?
C'est celle qui est contre le bar, la première de la rangée dans le paradis, donc à droite.
Et quelle est la table la plus demandée?
Bon, c'est celle-ci ou la table 8 au bout de ce rang, où il y a une table 8 qui est en angle, où on peut être, les deux convives peuvent être assis sur la banquette.
Mais par exemple, si des gens sont en train de nous écouter là, en ce moment, et qu'ils disent je vais aller chez Lip, ils appellent, ils disent je veux la table 1 et je m'appelle Mash Pro, et il n'a pas le droit.
Ça ne marchera pas.
Ça ne marche pas.
Non.
Bon, mais quand on téléphone, on a qui au bout du fil? On a toujours la même personne?
Oui, pratiquement toujours la même personne.
C'était vous par exemple qui répondiez?
Moi j'adorais répondre au téléphone, oui.
Ouais. Parce qu'il faut réserver.
Faut réserver, c'est mieux. Bon, mais alors, c'est une brasserie, hein, donc on peut venir aussi sans réserver si on est prêt à attendre un petit peu.
Y a-t-il toujours l'appartement discret du premier étage, me dit quelqu'un manifestement qui connaît. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Y a-t-il toujours l'appartement discret du premier étage?
Je pense savoir alors qui vous a dit ça.
Ah bon?
Oui, parce qu'il y a une...
Ah, vous donnez les initiales pour voir?
Non.
Ah bon, non, d'accord. Non. Parce que là, moi, j'ai...
Mais c'est vrai qu'il y avait un appartement... Parce que dans la salle du premier étage,
parce que les gens après le déjeuner faisaient un petit câlin.
Il y avait un client qui avait un appartement qui louait au-dessus et il rentrait par la porte principale et il ressortait par le premier étage discrètement par un escalier pour aller à cet appartement.
Seul?
Ouais, il est bien.
C'est extraordinaire. Seul. Bon, alors évidemment, je cite plusieurs brasseries parisiennes, Maxime, Le carré Marigny que vous aimez bien,
je vous y crois souvent. Ouais.
Avec notre ami Fabrice, qu'on peut. Voilà, bon, c'est vrai que c'est des rendez-vous. Ce qui est étonnant dans Paris, c'est que tout le monde se réunit dans les mêmes endroits. C'est-à-dire que la ville est grande quand même, mais tout le monde va à la Rotonde, au carré Marigny, chez
les endroits emblématiques.
Etc. Comment?
Parce qu'il y a des endroits emblématiques.
Et dans le temps, c'était Edgar.
Oui.
C'est moins cher que le carré Marigny.
Oui.
Ah bon? Parce que vous êtes à... Oui, mais vous n'aimez pas payer cher, j'ai remarqué.
Ah, non. Non. Carré Marigny, c'est bien, mais...
Ah oui.
Mais alors, chez Edgar, tout le monde se retrouvait chez Edgar.
Oui. Ça, Paul Ben Mussa, c'était ça?
Oui, c'était un grand professionnel.
Alors,
un grand.
Bon, là, je vais vous montrer un extrait. Ouais. Donc, c'est Jérôme Garcin. Jacques Laurent, il a tout écrit ses livres
Pratiquement. Là, vous voyez, dès 55, il est sous le nom de Cécile Saint-Laurent. Il est là quasiment tous les jours.
Et il écrit. Parce que,
ouais. Il avait plusieurs tables. Lui, il arrivait, il s'installait sous l'escalier, donc à gauche en rentrant. Il prenait un café, ainsi de suite. Après, il déjeunait à la table 35 en face du bar. Et il montait souvent au premier étage pour écrire. Et il passait ses journées là.
Et il n'écrivait pas chez lui?
Il écrivait
et,
beaucoup.
Et paraît-il que, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais Romain Gary a déjeuné chez Lippe, il est rentré chez lui et il s'est mis une balle.
Ah, ça, je ne connaissais pas ce détail.
C'était juste après, il avait déjeuné et il avait, le jour où il s'est suicidé, il sortait de. Il avait prévu, donc, sans doute, de déjeuner. Alors, vous voyez cet extrait que je trouve. Moi, j'aime bien les extraits de Lina. D'abord, c'est une autre. Quand vous écoutez Jacques Laurent, c'est un autre monde. C'est une autre manière de parler. Cet extrait est formidable. Et alors, je ne sais pas de quand il date. Je pense que vous n'étiez pas là. Ça doit être avant 92, je pense. Vous allez me dire si vous reconnaissez le décor, s'il a changé ou pas.
Eh bien, il y a des rites ici. Des rites que je n'ose pas dévoiler, puisque comme je le dis dans ce texte, ce sont des rites secrets, en quelque sorte. Et on sait qu'il n'est pas du tout choquant d'attendre, par exemple. Il y a des gens qui sont indignés parce qu'il faut attendre un peu. Ça fait partie du développement de l'apparat, de la cérémonie qui est une journée chez Lippe. Et il vaut mieux attendre quelques minutes en bas que monter directement au premier. Et alors, ça, je commence à révéler les secrets.
Encore que Jacques Laurent n'est pas de ceux qui attendent tellement, je pense.
Non, mais une petite attente fait partie du paysage.
Bon, une petite attente, mais les gens, ils... Alors, un jour, je crois que vous avez envoyé le roi à l'enfer. Oui, ben... Ah, vous êtes trompé.
Le roi des Belges.
Le roi des Belges, vous savez pas qui c'était, vous l'avez mis à l'enfer.
Mais il est arrivé en pantalon de velours et veste de chasse. Il n'était pas très médiatique, quand même. C'était pas la reine d'Angleterre. Hein. Donc,
c'est lequel?
Albert. Et il est arrivé sans protection policière. Donc ça aussi, souvent, ça nous donne un indice. Hein. Il est arrivé comme ça. Il s'est mis dans la queue parce qu'il y avait plein de monde. Et on l'a envoyé au premier étage.
Lorsqu'en 1980, François Mitterrand fut élu président de la République, Roger Cazes, c'était le prédécesseur,
oui.
Crut perdre l'un de ses plus fidèles clients. Il n'en fut rien. Celui qui était habitué des lieux depuis les années 50 continua à déjeuner et dîner régulièrement chez lui, à sa place préférée, la table 1, où il retrouvait souvent une jeune fille brune, Mazarine Pinjot, sa fille cachée. C'est formidable cette anecdote parce que ça veut dire qu'à l'époque, j'aime bien quand même ce monde où Mazarine a pu grandir sans les réseaux sociaux, sans la presse qui a donné son nom. Et au fond, je préfère ce monde-là à celui d'aujourd'hui.
Ah, je suis d'accord. Mais en plus, dans la salle, il y avait quand même beaucoup de journalistes. Donc tout le monde savait. Mais personne ne disait rien.
Pompidou était
retenu.
Pompidou était gravement malade. On se le disait tous dans les couloirs, mais personne n'en parlait à la télé ou à la radio.
Alors, bien sûr que Mazarine, alors après, il y a eu des procès en sorcellerie. Elle a vécu, elle a vécu aux frais de la République, tout ça. Mais au fond, je m'en fiche. Parce que je trouve bien cette société qui fonctionnait comme ça. Avec, en fait, des lois non écrites.
Complètement, oui.
C'est des lois non écrites. Il a sa fille, on ne le dit pas. Alors, on peut contester, hein, au nom de la transparence.
Les familles étaient réunies lors des obsèques.
Oui. Dans Le Bon Plaisir, film de Francis Giraud, qui est un film formidable, d'ailleurs sorti en 84, et inspiré du livre de François Giraud, sont mis en scène le président de la République, un amour secret et un fils caché, écrivez-vous. Alors, il y a la fameuse horloge, elle existe toujours, l'horloge?
Toujours, il y en a une dans chaque salle. Oui.
Et elle est réglée pour l'Assemblée?
Pour l'Assemblée, le Sénat, parce que en partant de chez Lippe, alors aujourd'hui moins, mais à l'époque, le boulevard Saint-Germain était dans les deux sens, il fallait 7 minutes pour aller de chez Lippe à l'Assemblée nationale, et il faut 7 minutes pour aller de chez Lippe au Sénat. Donc les pendules avant de 7 minutes.
Vous parlez de Jane Birkin, juillet 2023, fut particulièrement douloureux. Jane Birkin d'abord, qui venait en voisine, nous a quittés. Une photo prise chez Lippe a été de nouveau publiée dans la presse à cette occasion et maintes fois partagée sur les réseaux sociaux. Jane souriante, Serge Gainsbourg, une douceur sur le visage, le couvrant d'un regard amoureux, Roger Cazes riant avec eux. Et puis alors, les téléphones portables sont vraiment interdits chez Lippe?
Non, été, c'est plus possible. Ils l'ont
Pourquoi
été.
C'est plus possible.
Parce que, alors c'est plus possible parce que tout le monde en a. Mais au départ, souvenez-vous, les premiers téléphones portables, les sonneries étaient stridentes, ouais. Les gens hurlaient pour se faire entendre parce que ça marchait quand même pas très très bien, et donc c'était insupportable pour les clients. Donc on avait décidé d'interdire les téléphones.
Bon, et Giscard et Valéry Giscard d'Estaing se sont réconciliés chez Lippe.
Et Pompidou.
Oui. Et j'ai dit qu'il...
Et Valéry et Giscard d'Estaing.
Oui. Donc... il s'est réconcilié avec lui-même.
C'est un excellent lapsus. Giscard et Pompidou se sont réconciliés. Oui.
Bon, c'était De Gaulle qui leur avait dit allez montrer que vous êtes réconciliés, parce qu'on savait bien qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Et il a dit il y aura bien un journaliste qui traîne chez Libre. Et c'est De Gaulle qui avait envoyé aussi le journaliste.
Et qui vous a remplacé? Parce que, évidemment, c'est essentiel la personne qui accueille. C'est vrai, dans tous les restaurants d'ailleurs, la personne qui est la figure. C'est un jeune que vous avez formé?
C'est un garçon, mais qui est très compétent, Stéphane. Kounelakis, d'origine grecque.
Oui.
Et qui est très compétent et qui. Pense travaille très très bien.
Et les serveurs ont un numéro.
Oui.
Un numéro par ordre d'entrée. Donc tu sais si le type vient d'arriver ou pas.
Voilà. Numéro 23, c'est le dernier entrée.
Et donc il y a le numéro 1.
Et le numéro 1.
Et il est là le serveur numéro 1 depuis combien de temps?
25 ans.
Et il y a du pourboire beaucoup chez Lip. On gagne bien sa vie.
Un serveur. On gagne bien sa vie chez Lip.
On gagne combien?
Entre 4 et 4500 euros par mois.
Ça c'est brut ou net?
Net.
Net. Oui. Et il y a sans pourboire avec le pourboire.
Non, pourboire compris. Mais c'est déjà pas mal.
Ah oui, c'est beaucoup d'argent.
Mais c'est un travail de 10-12 heures par jour. C'est
Et on fait où le matin ou le soir?
On peut faire les deux aussi.
C'est formidable, hein? Mickaël Dorian, vous avez une minute.
Mathilde Panot et Rima Hassan, c'était ce matin devant les locaux de la police judiciaire à Paris. La chef des députés de la France insoumise et la militante franco-palestinienne doivent y être entendues dans le cadre d'enquêtes pour apologie au terrorisme. À Nice, 5 personnes ont été agressées par 2 hommes qui jugeaient que les femmes portaient des jupes trop courtes. Leurs conjoints ont tenté de les défendre et la situation a ensuite dégénéré. Les agresseurs ont été libérés à l'issue de leur garde à vue. Et puis Charles III reprend ses activités publiques aujourd'hui. Il doit visiter avec son épouse, la reine Camilla, une clinique de traitement du cancer à Londres. Le roi veut tenter de démystifier la peur autour de cette maladie qui frappe directement la famille royale.
Je salue Norbert Saada qui nous écoute et qui était touché, dit-il, que Jean-Claude parle de son père, Edgar, chez Edgar,
oui.
Notre ami Norbert Saada. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je vais rectifier quelque chose, c'est Eric Neuf qui connaît évidemment tout Paris et qui me dit Gary avait déjeuné au Récamier.
Ah, c'est honneur et sauf.
Voilà. Autrement, effectivement.
Voilà, Eric Neuf qui manque aussi au Masque et la Plume depuis que Jérôme Garcin est parti.
Oui, moi.
Et Becbédé, il est resté au Masque et la Plume?
Frédéric Becbédé?
Oui.
Oula, ça fait belle lurette qu'il n'y ait plus, cher ami.
Au Masque, oui.
Il était au cercle de Canal Plus aussi à un moment donné.
Donc c'est devenu une émission politiquement correcte, un peu les.
Un peu ce que je cherchais à dire.
Voilà,
c'est. Eric Neuf et. Il y avait Eric Neuf et Xavier Le Herpeur qui s'empoignaient à Jérôme Garcin, c'est ça qui était marrant, c'est ça qui faisait le sel de l'émission. Et ça a bien changé.
Mais tout est pareil, c'est-à-dire que
c'est assez petit maintenant.
Le conformisme, là, notamment dans le domaine culturel, mais c'est.
Eric Neuf se frottait souvent à une. Consort de Libération, c'était très drôle et c'est plus le cas.
C'est vrai que vous avez eu de la chance de vivre dans une période de grande liberté, le Masque et la Plume en fait partie, où on pouvait parler de tout ensemble avec un peu de gaieté, de bonne humeur. Et aujourd'hui, chacun est dans son couloir et c'est l'enfer.
En même temps.
Et les journalistes sont virés.
Vous nous dites à juste raison que les idées, entre guillemets, plutôt de gauche étaient dominantes et étaient à peu près partout au rendez-vous. Alors. Aujourd'hui, certes, l'affrontement n'est pas toujours élégant, mais au moins, le choc des idées est une réalité.
Pivot tout le monde.
Et moi, Pivot, tu as raison. Pivot était tout ce qu'on veut, sauf quelqu'un de sectaire et de. À l'évidence.
Mais Jean-Claude a raison. Bon. Ils n'ont plus le monopole du récit.
Oui. Bon, en tout cas, du récit. Moi, je veux dire, on lit tous des tonnes de livres.
Fâchés.
On lit tous des tonnes de livres. Moi, j'ai lu ce livre d'une traite, j'ai trouvé formidable.
Merci.
D'abord, c'est très bien écrit, c'est anecdotique. C'est sympathique, c'est vraiment, y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées dans ce livre. Et donc c'est aux éditions du Rocher, le monde entier des films dans la célèbre brasserie. Je vous remercie beaucoup Monsieur Claude Guittard d'être venu avec nous. Virginie Leblond était à la réalisation, Alice Maillet était à la vision. Merci à Zaven Hamel qui était là au son. Merci à Marine qui était de retour ce matin de Dinard, et à Pauline Tretzer qui était avec nous ce matin. L'important, c'est de donner des informations personnelles. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. À ce soir.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.